Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Émission faisant suite à l'épisode 67, puisqu'il sera aujourd'hui à nouveau question d'autisme. Pour creuser ce sillon, nous avons réalisé un phoneur avec Aude, qui va nous parler, entre autres, de la création et la raison d'être de son association Autisme Sitting. Et fin 2019, en vadrouille sur Paris, nous avons croisé la route de l'Institut sous la croupe. Épisode en deux parties donc. On vous souhaite une bonne écoute. Et on se retrouve à la fin de l'épisode afin de se dire au revoir.
Eh bien moi, je m'appelle Aude Courboulex et j'ai 39 ans et demi, comme diraient mes enfants. J'habite la banlieue lyonnaise et je suis l'heureuse maman de trois enfants, donc Ambre, 9 ans, Martin, 7 ans et puis Or, 5 ans. Si on parle d'autisme aujourd'hui, c'est principalement parce que moi, je suis tombée dedans comme Obélix dans sa potion magique il y a 5 ans avec le diagnostic de Martin. Martin, il a été diagnostiqué autiste. Alors, on dit de haut niveau, je n'aime pas trop le terme, mais c'est ce qui se dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déficience associée. Alors, aujourd'hui, il est scolarisé en milieu ordinaire avec une aide humaine qu'on appelle AESH, hein, accompagnant des élèves en situation de handicap. Mais au départ, c'était un peu le parcours du combattant. Nous, on a eu la chance qu'il soit diagnostiqué très tôt. Mais je dis parcours du combattant parce que, si tu veux, c'était un enfant qui évoluait différemment de sa grande sœur, qui avait un regard particulier, enfin plein de choses que je percevais très différentes, des colères monstrueuses, pas le caprice lambda de l'enfant classique, hein, vraiment des crises à se taper la tête par terre, contre les murs, à se faire du mal, des choses que je ne comprenais pas, une acquisition du langage franchement nulle. À 2 ans, il ne parlait pas et toutes ces choses m'ont alertée. Et au départ, j'ai eu du mal à me faire entendre par le médecin généraliste qui le suivait, en me disant « laissez-le, c'est un garçon ». Et malheureusement, cette phrase, on est nombre de mamans à l'entendre encore aujourd'hui, « laissez-le, c'est un garçon ». Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, il se dit que « messieurs, vous êtes plus lents ». Mais bon… Mais du coup, voilà, face à l'insistance, c'est vraiment le message que j'aimerais faire passer aux parents qui ont des doutes aujourd'hui, et quels qu'ils soient, hein, que ce soit dans l'autisme ou autre, de s'écouter, de se faire confiance. Parce que c'est jamais agréable de taper à la porte d'un médecin et de dire « je crois que mon enfant a un problème ou ne se développe pas comme les autres ». Et du coup, 6 mois après, ce même médecin a tilté en voyant des comportements atypiques chez mon fils, des fermetures de portes, des jeux avec interrupteurs. Et du coup, j'ai eu la chance qu'un diagnostic soit posé alors qu'il n'avait que 2 ans et demi. Donc, je dis une chance parce qu'aujourd'hui, c'est très tôt, c'est avant 3 ans, c'était juste à l'entrée de l'école, en petite section d'école maternelle, et ce n'est encore que trop peu le cas, et encore beaucoup de familles qui errent de professionnel en professionnel, 7, 8, 9 ans, voire même des profils d'Asperger qui sont diagnostiqués à l'âge adulte, et c'est beaucoup de souffrance, et pour la personne concernée, et bien sûr pour son entourage.
Avec l'arrivée de cet enfant, il est diagnostiqué. Et quel problème, du coup, ça a engendré quel effet ça a eu sur votre famille, alors?
C'est vraiment une bombe, parce que à la fois, le diagnostic, il m'a soulagée, parce que je me suis dit, je suis pas folle. Mon enfant, il a bien quelque chose de différent, et ça s'appelle l'autisme, et voilà ce qu'on va faire. Mais ça fait quand même hyper mal, parce que tu as plein de doutes qui arrivent, tu as plein de clichés aussi sur l'autisme. Moi, j'imaginais que c'était de la maladie mentale, alors que j'ai appris tout de suite que non, c'était pas de la maladie mentale. Je voyais vraiment Rainman, soit le gamin qui comptait les allumettes plus vite que son ombre, soit l'enfant qu'on ne pouvait pas toucher, ou l'enfant qui regardait pas dans les yeux, et c'est pas le cas de mon fils. Donc, c'était vraiment un choc au niveau de l'équilibre même familial. Déjà, en premier, moi, je travaille à temps plein, donc faire garder ses enfants, c'est déjà compliqué, mais quand on rajoute la composante handicap, c'est presque mission impossible. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un de bienveillant, et j'ai eu la chance que, au final, de m'en sortir, de trouver une nourrice à domicile qui a accepté de garder mes enfants 3 jours par semaine au début de la scolarisation. Ça a été aussi des difficultés de scolarisation dans le sens où on a eu le diagnostic au mois de juillet et il a fallu faire une demande d'accompagnant scolaire, d'AESH, sachant que les délais de montage de dossier, enfin le moment où tu envoies le dossier, où tu as la réponse et où l'AESH est affecté, c'est aller 6 à 9 mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cet enfant pendant ce temps-là? Donc, l'école a joué le jeu, mais il allait à l'école au début 1 heure par matinée pour se familiariser. En pensant bien faire, on le faisait aller sur le temps d'accueil. Or, message à tous les enseignants, le temps d'accueil pour l'enfant autiste, c'est le pire temps de sa vie en classe, puisque c'est le moment où il n'y a pas de structure, les enfants pleurent. Il vaudrait mieux décaler. Voilà, donc des problèmes de garde, des problèmes de scolarisation. Voilà, que fais-je de mon enfant pendant ce temps où il n'est pas à l'école? Il faut bien que quelqu'un le garde. Au niveau professionnel, moi, j'ai réduit mon activité de 50%. Et puis, ce dont on parle un peu moins et qui est quand même tabou, c'est qu'il faut quand même bien le dire, c'est que le cercle social, il se réduit comme peau de chagrin, quoi, hein, parce que tu peux pas jeter la pierre aux gens non plus, mais voilà, déjà 3 enfants, ça fait du bruit. Et puis lui, il est un peu comme ci, il est un peu comme ça. Donc du coup, c'est compliqué parce que c'est un handicap invisible dans le cas de Martin, et que ce handicap invisible, il suscite beaucoup de jugements et d'incompréhension. Voilà, même de l'entourage proche. Voilà, et je sais que quand on discute avec d'autres familles ou d'autres parents, c'est souvent ce qui ressort aussi, hein, beaucoup d'isolement. On parle de l'isolement de la personne qui est concernée, bien sûr, en premier, mais vraiment le cercle des proches aidants est très impacté. Et les frères et sœurs aussi, et je trouve qu'on ne le prend pas assez en compte. C'est pour ça que j'ai parlé de mes filles aussi tout à l'heure en disant que j'étais maman de 3 enfants, parce qu'elles le vivent au quotidien et qu'on ne pense pas assez à la fratrie et aux répercussions que ça a dans leur vie sociale aussi.
Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la création de ton association Autiste Sitting?
Alors en fait, effectivement, comme je le disais, une des premières difficultés que j'ai eues, ça a été de trouver quelqu'un de bienveillant et d'enclin à garder mon enfant différent. Et je me suis rendu compte que y avait très très peu d'offres, que c'était un besoin qui était un peu couvert, et j'ai eu un peu un sentiment d'injustice à me dire bon sang, j'ai la double peine, quoi. J'ai déjà un enfant différent, avec des projections d'avenir angoissantes, avec un quotidien compliqué, et en plus j'ai pas de secours ou de relais. J'ai rejoint une association en étant bénévole moi-même parce que je voulais un peu m'activer dans le champ de l'autisme et découvrir et échanger. Et je me suis rendu compte que l'isolement dont on parlait tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est que chaque famille vit isolément la même chose et a les mêmes difficultés, et que le besoin de garde était très en avant dans la liste des complications. Du coup, c'est comme ça qu'est née effectivement l'idée d'Autisme Sitting. C'est alors spécialisé dans l'autisme pour les enfants et ados de 3 à 19 ans, en disant on va développer un réseau de babysitters, on va les sensibiliser à l'autisme, c'est-à-dire qu'on anime des ateliers de sensibilisation autour de thématiques liées à l'autisme, à savoir le premier, c'est sur l'autisme en général, pour un peu refaire la part des choses et refaire le point sur les clichés qu'on a tous et qui sont quand même encore un peu véhiculés maladroitement aujourd'hui. Un sur les comportements des filles, les fameux troubles du comportement que j'évoquais moi-même tout à l'heure. Des fois, certains enfants qui crient, qui tapent, toutes ces choses-là qui peuvent être déstabilisantes. Ensuite, on a aussi joué avec un enfant avec autisme, un peu pour la partie, rappeler le besoin de structure, d'anticipation, puis rappeler que ça reste un enfant aussi, qui a des besoins particuliers, mais qui a ses goûts à lui. Et puis, le quatrième volet, c'était l'autisme au quotidien, pour accentuer un peu plus la partie autonomie, car ce sont des enfants qui ont des fois des troubles alimentaires, de la sélectivité alimentaire, ou qui ne sont pas très autonomes pour prendre une douche, où il faut avoir un visuel, un support, etc., ou des fois des troubles du sommeil, etc. Et on s'est dit, ben, qu'est-ce qui rassure la famille? C'est d'avoir quelqu'un qui vient garder son enfant autiste, qui est sensibilisé, qui a une mini-formation, parce qu'on n'est pas organisme de formation, donc on fait vraiment des ateliers de sensibilisation poussée, hein, ça fait 12 heures d'atelier, et de se dire, ben voilà, ce sont des étudiants qui sont encadrés, qui ont des formateurs derrière qui les sensibilisent aux spécificités du trouble autistique. Alors, ce sont beaucoup d'étudiants du médico-social, des étudiants en orthophonie, psychologie, des étudiants éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs. Ça rassure le parent. Alors, on ne ferme pas la porte aux autres, mais ce sont souvent ces étudiants-là qui sont plus enclins à venir garder des enfants différents. Ça leur donne aussi de l'expérience dans leur futur métier et ça leur permet d'avoir un job complémentaire. Nous, on les forme et on les met en relation avec la famille. Aujourd'hui, la famille les rémunère après en direct, en fait. On fait vraiment le lien entre eux pour l'instant.
Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/associationresonance. R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Retour à l'entretien. Au-delà des ateliers de sensibilisation, vous avez accompagné combien de parents là pour le moment alors?
Alors, une dizaine de familles depuis juillet où vraiment on a commencé à être actif avec les demandes, etc. Parce qu'en fait, les temps de vacances sont souvent des pics d'activité pour nous, ce qui est assez logique, hein. Donc, du coup, depuis juillet, on a réalisé 60 heures de garde et on a 16 babysitters dans notre réseau qui suivent le parcours de sensibilisation. Et du coup, on a accompagné une dizaine de familles. On essaye de tourner avec deux intervenants par famille, comme ce sont des étudiants. S'il y a des partiels ou des stages, des choses comme ça, qui est un plan B pour la famille, idéalement, voilà.
C'est quoi l'avenir de ton association? C'est quoi son développement? C'est quoi vos prochaines étapes?
Alors nous, déjà actuellement, on est à fond dans le recrutement de nos babysitters. On développe notre réseau. On a un beau partenariat qui se met en place avec un fonds de dotation qui nous soutient, qui s'appelle Thelma for Anna, et qui nous aide à financer nos ateliers de sensibilisation. Au-delà de cela, on est en train de déposer le dossier pour devenir un service à la personne, d'avoir l'agrément, parce que le deuxième objet social d'Autisme Sitting, c'est de proposer de la garde spécialisée dans l'autisme et que toutes les familles d'enfants avec autisme ou ados y aient accès, pas seulement ceux qui peuvent se le permettre financièrement. L'idée d'être agréé service à la personne, c'est vraiment de pouvoir proposer un service de garde adapté aux besoins de ces jeunes avec autisme à toutes les familles, parce que, comme je le dis souvent, le répit, c'est malheureusement encore considéré comme du luxe. Et ce n'est pas du luxe, parce que quand on est proche aidant, ben, on a le droit aussi de même sortir au cinéma ou aller souffler une heure, courir ou faire ce qu'on aime. Ou même souvent, nous les demandent, c'est tout simplement pour retourner au travail, mais au-delà de l'activité professionnelle, eh bien, on a le droit en fait de souffler, ce qui est très culpabilisant pour le proche aidant, souvent, d'oser dire « j'ai besoin de souffler ». Et c'est de permettre à ces gens voilà, d'avoir des moments à eux, de se recentrer un petit peu sur eux, parce que ce répit, eh bien, c'est un gage de pérennité de la prise en charge et de l'accompagnement du jeune avec autisme. Si le proche aidant est bien, s'il a des moments pour se ressourcer, alors franchement, crois-moi, la prise en charge, elle en sera que meilleure. Et les professionnels le verront, quoi. On est des véritables partenaires, on travaille ensemble. Et voilà, c'est comme tout, quand on est bien, on va loin. Voilà. Donc moi, voilà, c'est vraiment le créneau, c'est donner du souffle au crochet d'an, lui dire que bah, il a le droit à ce répit-là et toutes les familles doivent y avoir accès.
Cette émission est diffusée. Imaginons, il y a des gens qui entendent. Imaginons, ils sont sensibilisés. Comment on peut faire pour vous aider? Est-ce qu'on peut vous aider?
Les bénévoles sont les bienvenus. Hein, ceux qui entendront l'émission peuvent tout à fait nous contacter via notre page Facebook. On leur répondra bien volontiers. Donc, on peut voilà, être soutenu par des bénévoles qui nous aident dans nos actions au quotidien, en communication, participation au salon, etc. On sera pour info sur le salon de l'autisme à Paris, là, en mars. Donc, si des gens veulent venir nous voir, on est les bienvenus. Côté, si des financeurs entendent et ne savent pas quoi faire ou veulent s'investir dans une bonne cause, ils peuvent aussi nous contacter. Mais voilà, nous, notre priorité, c'est le développement du réseau, ce projet d'agrément. Et ben voilà, toutes les bonnes âmes sont les bienvenues chez nous pour nous donner un coup de main et faire que l'inclusion soit aussi l'inclusion sociale des proches aidants d'enfants avec autisme.
Pour vous contacter, le plus simple, c'est comment?
Alors, le plus simple, c'est d'écrire à l'adresse mail en un seul mot, autismesitting@gmail.com. Les mails sont lus régulièrement et on fait toujours une réponse. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen de nous contacter.
Voilà, on en reste là avec Aude, mais rassurez-vous, nous vous redonnerons son mail et l'adresse de son site en fin d'émission. Je vous emmène maintenant sur Paris fin 2019, lors d'une journée organisée par la Fondation AFNIC autour du développement d'outils numériques solidaires. Pour l'occasion, la Fondation mettait en lumière plusieurs associations et structures, dont l'Institut Sous la Croupe. Et c'est de ça dont nous allons parler maintenant.
Je m'appelle Grégoire Jalinck, je suis coordinateur pédagogique à l'Institut Sous la Croupe, qui est basé à Dinard, en Ille-et-Vilaine.
Qu'est-ce que c'est que cet institut? À quoi elle sert?
C'est une école numérique solidaire qui a vocation à former des jeunes et les accompagner dans leur parcours de vie pour s'insérer, pour apprendre, acquérir des compétences dans les métiers du numérique et pouvoir trouver un emploi. Et donc l'Institut Sous la Croupe, pour finir la présentation, du coup on forme une partie de nos jeunes sur le métier de développeur web et une autre partie sur une formation tremplin où là vraiment on colle au projet du jeune. Donc il y en a certains comme Julia... qui parlera peut-être tout à l'heure.
Ça y est.
Ok. Qui apprend à coder en HTML, en CSS, pour créer des sites. Il y en a qui font de la fabrication numérique, pour travailler en Fab Lab. Il y en a d'autres qui vont plus être sur de la programmation. Il y en a un qui crée une fusée à eau connectée. On peut faire plein de choses avec le numérique. Donc l'idée, c'est de coller au projet de la personne. Et en plus de ça, vraiment de l'accompagner à pouvoir se construire un peu professionnellement. Donc on va parler de comment je gère mon temps, comment j'apprends à communiquer. Enfin voilà, et il y a aussi des périodes de stage en entreprise. Donc on essaie de mailler autour de nous des entreprises partenaires pour qu'on soit vraiment inscrit dans le tissu local comme un acteur de référence. Parce que c'est aussi un moyen de faciliter l'évolution des jeunes et leur épanouissement professionnel.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, en fait, ce que je trouve super, c'est qu'on est dans des formations un peu innovantes et du coup, il y a plein de choses qu'on découvre au contact des personnes qui ont galéré. Moi, en fait, je suis pas expert du numérique, j'apprends plein de choses tous les jours. Et c'est vraiment le truc que je retiens aujourd'hui, c'est qu'au-delà du numérique, pouvoir aider les jeunes à se remettre dedans au niveau de l'apprentissage, d'apprendre, d'être dans une situation où j'apprends, parce qu'en fait toute notre vie on apprend. Et j'apprends plein de choses aujourd'hui. Je sais que mes jeunes, s'ils retrouvent un peu confiance en eux, ils pourront se remettre dans une situation où en fait on apprend tout le temps. Et ça, au-delà de gagner un salaire, avoir une vie un peu réglée, évoluer, apprendre, la vie c'est ça quoi.
Bon, tu donnes envie aux gens, là.
Ouais.
Comment on fait pour rentrer dans cet institut? Comment on fait pour vous contacter, Alain?
Le mieux, c'est d'écrire à grégoire@institutsolacroupe.com ou d'aller sur le site, vous tapez Institut Sous la Croupe sur Google. Et ensuite, ce qui est super aussi, c'est que nous, on ne demande pas de prérequis. aux jeunes. Parce que, en fait, clairement, il y a des jeunes qui ont galéré jusque chez nous. On en a qui sont restés 4 ans, 6 ans, 8 ans chez eux, rien à faire. Donc, le prérequis pour rentrer chez nous, en fait, c'est d'avoir envie, quoi. C'est la soif, la passion d'apprendre et de se former, la passion du numérique. Donc, du coup, voilà, la condition chez nous, c'est d'être motivé, quoi.
Ok. Voilà. Okay.
Je peux rajouter autre chose?
Ah, mais je t'en prie.
En fait. Et ce qui est super aussi pour les jeunes, c'est qu'on a la chance de bénéficier d'un parc avec un château en bord de mer, qui est quand même un élément clé pour le plaisir, quoi. Enfin, on vient pas au boulot en traînant les pieds, et ça c'est quand même super.
Ouais.
Je parle pour moi là, mais c'est aussi super, quoi. Donc,
les gens, ils vont vouloir prendre ta place.
Ouais.
Merci.
Bah, y a de la place pour tout le monde.
Alors, bonjour, je m'appelle Julia Levavasseur, j'ai 23 ans, je suis hyperactif et autiste Asperger. Alors déjà, j'aimerais bien dire, j'ai été diagnostiquée à 16 ans au CRA de Brest, au centre ressources autistes. Donc du coup, ça fait déjà quelques années que je sais que je suis autiste, ça m'aide à avancer. Quand j'ai su que j'étais autiste Asperger, ça m'a permis de voir, enfin, j'ai vu que j'étais différente et ça m'a permis peut-être de prendre plus confiance en moi, de me faire confiance. Et depuis que je sais que je suis autiste Asperger, je vois la vie différemment, je pense. Je sais qui je suis.
Tu sais plus qui tu es, et quand tu dis que tu vois la vie différemment, est-ce que tu peux nous donner des exemples précis?
Alors avant, j'étais un peu plus hyperactif, tout ça. Je bougeais plus, j'étais moins sûre de moi, et maintenant ça va mieux. Mais je veux dire, la différence, c'est qu'avec l'âge, je m'assagis, je suis plus calme. C'est un renouveau. Alors en fait, au début, j'avais pas beaucoup d'amis. J'ai beaucoup été rejetée dans mon passé. Et là, j'ai l'impression d'avoir plus d'amis actuellement parce que je suis plus sociable. Je suis quelqu'un de sociable. J'aime beaucoup être avec des personnes, partager tout ça.
Avant, tu t'estimais moins sociable ?
Avant, j'étais moins sociable et plus timide.
Et maintenant, tu arrives à avoir des potes beaucoup plus facilement.
Alors, j'ai des amis neurotypiques et j'ai pas beaucoup d'amis autistes Asperger, mais j'aime bien fréquenter tout type de personnes, en fait. C'est ça qui est enrichissant, en fait. C'est de dialoguer, de partager, d'être avec d'autres.
Ok. Et donc, ça a changé ta vie d'être diagnostiquée, de pouvoir te poser là-dessus?
J'ai l'impression de me sentir appréciée par les autres, de me sentir reconnue par mes qualités et ce que je suis. On va dire que j'ai les codes sociaux, ça va beaucoup mieux. J'essaie de comprendre les sous-entendus, tout ça.
D'accord, d'accord. L'Institut Marie-Thérèse sous la croupe, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
C'est une dame qui est décédée depuis un certain temps, qui a légué le château et la fondation pour aider des jeunes, tout ça. Moi, actuellement, ce que je fais, c'est que je fais du codage. Je travaille sur l'application Visual Studio Code et j'apprends aussi sur Open Classroom pour apprendre à faire des ombres, le HTML, le CSS.
D'accord. Oui. On parle depuis le début de l'émission d'autisme. Et c'est quoi la place de l'autisme dans cet institut?
En fait, là où je suis, en fait, on est dans un endroit libre. Ça veut dire que si moi je me sens pas bien, je veux sortir. C'est vraiment, il y a pas beaucoup. Enfin, on est vraiment, il y a des règles qui sont voilà, mais c'est quand même très différent d'un autre endroit. Ça veut dire on se sent compris, on se sent aidé. Et il y a tout type de personnes. Il y a d'autres personnes qui sont autistes Asperger comme moi, mais il y a aussi d'autres personnes neurotypiques, en fait.
D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que tu penses qu'on a tout dit?
Je pense que nous avons tout dit et je vous remercie de m'avoir écouté.
Ça m'a resté dans la boîte.
Voilà, c'est fini. Merci à Aude, à Julia et à Grégoire. Pour en savoir plus sur l'Institut Marie-Thérèse Soulacroupe, rendez-vous sur leur site institutsoulacroupe.com. Pour contacter Aude, rendez-vous sur son site autismesittinglyon.wixsite.com. Des entretiens réalisés par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indy Grand. Pour réécouter cette émission, l'émission 67 qui abordait déjà le sujet de l'autisme, ou réécouter toutes les émissions, rendez-vous sur le mixcloud.com/sur-la-route. Et pour connaître l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur le facebook.com/association-résonance. Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.